parfois, le vent soufflé de grains de sable, un panoramique insatiable, coulissant d'envers en endroit, une aspérité longitudinale, un pont Lévesque miroitant, un arc-en-ciel phénoménal, piétinant le soleil couchant.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, une rencontre imprévue. Il y a quelques semaines, nous parlions d'un livre sur l'eau intitulé « Gouttes de lumière du Rajasthan » avec sa traductrice, Annie Monteau. Il se trouve qu'Anupam Mishra, l'auteur de ce livre, est venu en France et qu'il a rencontré Pierre Rabhi. Annie Monteau, la traductrice, était toujours là.
Déjà, il y a plusieurs points qui nous rapprochent. Je m'excuse de... J'aurais bien voulu que notre hôte prenne plutôt le premier la parole. Donc, ce qui nous rapproche, c'est que nous sommes tous les deux originaires du désert. C'est pas les mêmes déserts, mais c'est aussi des déserts. Moi, je suis né dans un grand désert qui s'appelle le désert du Sahara. La deuxième idée, c'est effectivement nos engagements et nos engagements qui vont au-delà, bien sûr, comme vous le disiez, d'une simple transfert technologique, parce qu'aujourd'hui, la crise fondamentale de l'humanité, elle n'est pas simplement d'en trouver d'autres technologies ou d'autres alternatives, elle est d'en redonner du sens à la vie et donc de réintroduire, j'ose le dire, cette dimension sacrée qui doit nous rapprocher de la vie sur la base d'une responsabilité que nous en avons. Voilà, je pense que déjà se posent entre nous deux éléments qui nous rapprochent bien.
बहुत बढ़िया. मैं समझता हूँ कि शुरुआत तो इन्हीं को करनी चाहिए थी और मुझे इनके पीछे चलना चाहिए क्योंकि इनका अनुभव है और मेरी भूमिका समाज में ऐसे लोगों ने जो काम किया है उसको एक मुंशी की तरह देखने की है. इन्होंने तो खुद काम किया है तो मैं इनसे एक सीढ़ी पीछे रहूं ये ज्यादा अच्छा.
Eh ben moi, je pense que c'était à lui de commencer le premier parce que c'était lui qui avait l'expérience personnelle et ça fait 40 ans qu'il est dans cet endroit. Donc je trouve que c'est très bien qu'il ait commencé le premier. Et ce dont je voudrais me réjouir ici, c'est que dans la société d'aujourd'hui, on a tendance à oublier que la diversité de la nature existe, à fonctionner de la même manière qu'on soit dans un environnement campagne, montagne, océan, désert. Et la société traditionnelle, elle avait une conscience aiguë de la spécificité de son environnement et on s'en réjouissait. On n'allait jamais se plaindre, ici c'est le désert, mais au contraire, penser que Dieu nous a donné ça, eh bien, profitons-en, traitons la région pour ce qu'elle est, exploitons, et un très mauvais mot, c'est plutôt vivons avec la nature dans ce qu'elle a de particulier, que ce soit un endroit au bord de la mer, une montagne, une autre partie de la nature.
Oui, donc nous sommes bien sur de plus en plus, disons, sur ce qu'on appelle la même longueur d'onde. Et il est évident que aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que il y a une civilisation qui évolue et qui s'éloigne de plus en plus de la nature. C'est-à-dire qu'elle est, en fait ce qu'on pourrait appeler une civilisation un peu hors sol, c'est-à-dire les cités urbaines qui concentrent les individus, ces individus se concentrant s'éloignent de plus en plus de cette évidence qu'est la vie, et en s'éloignant de l'évidence qu'est la vie, ils mettent entre elles et eux-mêmes beaucoup de matérialisme, c'est-à-dire un énorme matérialisme, et en même temps beaucoup d'abstraction, c'est-à-dire un monde de plus en plus virtuel et de plus en plus inconsistant. Ce qui fait que tout le travail qui est à faire aujourd'hui, est-ce que on peut amener l'humanité à se concilier, à se réconcilier avec cette réalité dont elle est de plus en plus éloignée.
बहुत अच्छा. ये जो प्रकृति से जुड़ने की बात पिछले कुछ साल से.
Ce lien à la nature, on en parle en effet beaucoup depuis quelques années. Je voudrais à ce propos rappeler une phrase de Gandhi. C'est que La Terre, l'univers, notre Terre, elle peut combler les désirs, les besoins de chacun, peut combler les besoins de tous. Elle est assez riche pour combler les besoins de tous. Par contre, elle ne pourra jamais combler la concupiscence, l'avidité d'un seul. C'est-à-dire que c'est ça les deux mots importants. C'est-à-dire que si on pense en termes de besoins, l'adaptation à son milieu naturel suffit. Avec évidemment la capacité que l'humain a toujours manifestée d'intelligence de la nature. Et quand on est doué de cette chose, les besoins seront toujours satisfaits, où qu'on soit, et même si on est dans le désert, que ce soit le désert du Thar, que ce soit le désert du Sahara. Par contre, si la personne vit dans la concupiscence, le vouloir posséder, le vouloir acquérir, le toujours plus, eh bien dans ce cas-là, les terres les plus fertiles, les plus immenses suffiront jamais à satisfaire cette avidité.
Quel que soit le désert, les besoins sont les mêmes ?
Oui, je crois que l'être humain est par définition doté de discernement et de conscience. Ce discernement et cette conscience lui permettent finalement de vivre dans les situations les plus extrêmes. C'est-à-dire à la fois, on pourrait dire que le bédouin vit dans la partie la plus torride et que l'esquimau vit dans la partie, c'est parce que ça aussi c'est un désert, la partie glaciale. Entre deux, il y a toutes sortes de nuances et de lieux culturels où finalement la nature nous offre les ressources, l'être humain prend en compte ses ressources et les organise pour sa propre survie. Et c'est là qu'il démontre finalement sa capacité et son génie finalement à dialoguer et à tirer parti de ce que la vie lui offre. Par exemple, dans notre désert, les gens ont créé des oasis. L'oasis, c'est quand vous êtes dans un désert torride dont la température à l'ombre parfois atteint 55 degrés, aucune plante, ou plus plante conventionnelle, domestiquée, ne peut résister à ce désert. Il n'y a que les plantes qui sont adaptées. Eh bien, les hommes ont mobilisé de l'eau. C'est pour ça que ça rappelle un peu le magnifique ouvrage que j'ai lu. Et on mobilise de l'eau, et puis en même temps, on se rend compte que avec l'eau et la terre, ça ne suffit pas. Il faut aussi de l'ombre. Donc on va chercher l'ombre auprès du palmier dattier, qui pousse, qui s'épanouit, qui s'ouvre comme un parasol. Et en s'ouvrant comme un parasol, eh bien, il produit cette matière qu'on appelle l'ombre, qui est absolument indispensable à la vie des végétaux qui vont venir en dessous. Et c'est grâce au palmier qui produit donc un fruit qui est très nutritif, qui produit cette ombre, que nous pouvons cultiver des arbres fruitiers. Ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, ce sont les légumes, les céréales. Et donc, on crée un écosystème artificiel dans lequel, se mêlent des animaux. Et la notion, il y a deux valeurs extrêmement qui prennent une énorme richesse. C'est l'eau. L'eau, parce qu'elle prend vraiment la valeur de la vie. Absolument. Et la terre, parce que chaque mètre carré que nous cultivons est véritablement la terre nourricière, la terre mère au sens le plus radical du terme. Voilà. Et donc voilà comment les êtres humains, dans des déserts torrides, créent des lieux qui sont des lieux de vie et de survie.
अच्छी बात कही इन्होंने और जो आज के लोगों की मन की दिक्कत है वो ये है
je suis complètement d'accord et je pense qu'un des problèmes d'aujourd'hui c'est que justement ce discernement cette intelligence de l'environnement la société contemporaine ne le considère pas ne le respecte pas comme il devrait l'être et que les savoirs traditionnels qu'ont développé les gens dans leur concernant leur lien avec leur propre environnement sont plus considérés comme des métiers dignes, des métiers nobles. Et quand la conception moderne du progrès et du développement qui s'est imposée du fait de la société moderne, elle a plutôt tendance à mépriser ces savoirs et à les associer avec même des formes d'arriération, le mot employé qui est calqué de l'anglais, c'est exactement celui-là, au lieu de leur donner le respect qu'ils méritent, au contraire. Et c'est pour ça que ces savoirs sont en voie d'oubli, oui. Puisque ceux qui les portent et les font encore vivre sont de plus en plus évacués dans les marges de notre société.
Ce phénomène est planétaire. Je travaille beaucoup sur l'Afrique noire, par exemple. On trouve exactement les mêmes éradications de tous les systèmes vernaculaires, c'est-à-dire de tous les systèmes que les humains ont inventés d'une façon communautaire ou tribale ou autre pour trouver et maintenir leur propre équilibre. Donc ça, c'est en train de... La grande question aujourd'hui, c'est de savoir, finalement, la question que je me pose énormément, c'est que signifie la modernité, c'est-à-dire ce monde, cette société nouvelle qui a prétendu que la vie doit fonctionner sur la matière minérale, c'est-à-dire organiser la vie sur la matière minérale. L'exhumation de la matière minérale, exaltation de la matière minérale et la création d'une civilisation qui, à mon avis, est la plus fragile de toute l'histoire de l'humanité puisqu'elle repose sur la combustion. C'est-à-dire que c'est la combustion qui maintient, en quelque sorte, la société. C'est pour ça que, par exemple, le pétrole, tout ce qui est destiné à brûler pour faire marcher des machines, etc., devient le fondement même de la civilisation. Et c'est pour ça que cette crise aujourd'hui, ce retournement de situation, c'est-à-dire aller chercher le minéral et le mettre contre la vie, contre le vivant, je crois que c'est vraiment la grande erreur que le monde moderne a pu faire.
बहुत बड़ी बात कही इन्होंने क्योंकि हम लोगों की भी ये चिंता है कि
c'est vraiment ça. Ça me fait penser à une maladie, le somnambulisme. Ces gens qui marchent dans leur sommeil, l'homme, la femme qui quitte son lit en pleine nuit, qui grimpe sur le toit de la maison, qui risque de tomber du toit. D'ailleurs, cette notion même de progrès, elle a toute une histoire. Et dans ses débuts, elle a enregistré des échecs suffisamment forts pour se modifier. Par exemple, quand on a développé sans précaution, c'est-à-dire en fait exploité la nature, très rapidement, on s'est aperçu que ce type de développement avait un potentiel destructeur extraordinaire. Et par exemple, des régions où on ne pouvait pas naturellement pratiquer l'agriculture parce qu'elles étaient trop sèches, on a importer l'eau dans ces régions par des canaux, divers moyens d'adduction d'eau. Et ces canaux ont eu entre autres effets celui de créer des stagnations. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des excédents d'eau. Il y a eu beaucoup d'eau, donc on a effectivement fait des récoltes. Mais l'excédent d'eau a créé des marécages et ces marécages ont fini par détruire les récoltes mêmes qui avaient été suscitées par le développement et ces commissions, ces diverses commissions de planification en Inde. Alors, on a instauré une nouvelle phraséologie qui est celle qui domine en ce moment et qui est le développement durable. En hindi, le développement stable, sthayi. Et cette culture, la culture moderne, celle que Pierre Rabhi a appelée celle de notre modernité, en fait, il y a un certain paradoxe. Est-ce qu'elle propose des concepts comme développement durable parce que leur pensée elle-même n'est pas durable. Il n'est qu'à voir l'histoire même du développement et la manière dont elle s'est modifiée, reconvertie de 10 ans en 10 ans. Si on n'a pas en soi une pensée stable, une pensée durable, une pensée qui est son assiette, comment on pourrait concevoir un développement durable. Ça, c'est un vrai problème, parce que même idéologiquement, notre conception semble errer, passer d'un projet à l'autre, d'une idée, d'une conception à l'autre.
Moi, ma grande question, c'est de savoir, puisque ces constats, nous le faisons tous de plus en plus, parce que nous sommes bien obligés de les faire compte tenu des impasses dans lesquelles s'engage de plus en plus l'humanité en termes humains, en termes écologiques, en termes économiques, à tous les niveaux, disons, il y a des impasses qui se précisent. Et puis en plus nous sommes dans une phase tout à fait paradoxale dans laquelle jamais l'humanité n'a eu la capacité de s'éradiquer elle-même, c'est-à-dire qu'avec le potentiel aujourd'hui de destruction nous sommes capables d'éliminer complètement l'humanité, que nous ne pouvons pas dire que notre civilisation, parce que l'argument qui vient très souvent, c'est que toutes les civilisations sont nées, se sont épanouies, ont décliné, ont disparu. La nôtre, on ne peut pas lui appliquer cette règle-là, compte tenu qu'elle est que les civilisations antérieures, elles étaient malgré tout régulées par la nature, c'est-à-dire que la nature mettait des limites, et puis il y avait aussi, disons, un contexte social dans lequel on trouvait des recours de valeur quand on avait épuisé quand les civilisations déclinaient parce qu'elles avaient épuisé leurs valeurs fondamentales, elles pouvaient avoir recours à d'autres valeurs fondamentales. Or, aujourd'hui, la planétarisation de tout le système me fait craindre une chose très très grave, c'est que on puisse donner à l'ensemble de l'humanité une seule et unique vision. C'est-à-dire, en quelque sorte, le clonage des esprits. À mon avis, la mondialisation en tant que telle, dans le terme des échanges, on peut l'analyser structurellement et mécaniquement, mais ce que je redoute le plus, c'est quand on transforme l'être humain pour lui faire consentir et pour lui faire admettre des valeurs ou des procédés, enfin disons, ce qu'on pourrait appeler à valeur entre guillemets, en particulier les valeurs marchandes. Quand on transforme l'être humain pour l'adapter finalement à une idéologie, ça me paraît beaucoup plus grave que n'importe quoi dans le système de la mondialisation. Un individu qui est structuré, qui est intérieurement charpenté, qui a des valeurs fortes, cet individu-là va pouvoir réagir. Mais si cet individu lui-même est lui-même transformé, on produit un être qui est dans le consentement, et ce consentement fait qu'il véhicule lui-même et que lui-même entérine et valide des hégémonies et des arbitraires que disons les puissances d'argent, les puissances marchandes lui imposent. Je dirais que la mondialisation doit se traiter vraiment au niveau d'un autre être humain. On ne peut pas simplement dire quelle terre allons-nous laisser à nos enfants, mais quels enfants allons-nous laisser à notre terre?
Le développement a effectivement produit un certain type de mentalité, enfin ce qu'on entend aujourd'hui par le mot développement, progrès, et le responsable principal de cette structuration mentale, c'est l'éducation, un certain type encore d'éducation, et notre nouveau système d'instruction, par exemple, aboutit à une aliénation de l'être humain par rapport à son milieu, et ça finit par fonctionner comme un véritable bulldozer à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des proverbes chez nous qui disent qu'il suffit d'aller à l'école pour tourner le dos au village, s'éloigner du village, que ensuite aller au collège va entraîner le fait qu'on tournera le dos à la ville, et de façon pyramidale, si bien que quand on arrive au sommet de la hiérarchie, qu'on a fini la fin des études, PhD, doctorat et autres titres, eh bien on quitte le pays. Et plus on avance dans les études selon le système qui est notre système national, mais qui est finalement répandu dans le monde entier, plus se s'ouvre le fossé entre la terre finalement et puis l'être humain. Et quand on se retourne, évidemment, ce qu'on voit de loin nous semble tout à fait arriéré.
C'est évident qu'il y a une idéologie, c'est-à-dire qu'on n'a pas repéré la modernité comme une véritable idéologie structurée, c'est-à-dire qu'il a fait des choix extrêmement précis en percevant la planète comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser, bien entendu, en créant l'argent. Alors l'argent, c'est une chose intéressante, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut nous permettre finalement des échanges, c'est très pratique, etc. Mais il a l'inconvénient, c'est que il peut, en quelque sorte, répondre à tous nos désirs. C'est-à-dire qu'au lieu de, se limiter à réguler nos besoins, il ouvre l'esprit humain à tous les désirs, et tous les désirs les plus fous et les plus irréalistes. Et donc, il outrepasse très largement. Par ailleurs, ce qui gère aussi aujourd'hui la planète, on est dans un système un pompier pyromane. Je suis tout à fait d'accord que l'histoire de ce qu'on appelle le développement, d'abord le développement est un échec, et que c'est un concept qui est strictement marchand et lié à la productivité, au productivisme industriel, c'est de là qu'il est né, le développement. C'est ainsi qu'on a fait que des peuples comme l'Afrique, que je connais bien, qui est un continent immensément riche, et on a tellement manipulé les gens, les Africains, que les Africains se perçoivent comme pauvres, alors qu'ils sont immensément riches. Et cette perception, elle est liée à l'idéologie qui, finalement, manipule. Alors, comme on a créé des déséquilibres, des disparités, puisqu'on a réglé la prospérité sur ce qu'on appelle le produit national brut, et ce produit national brut qui donne la mesure finalement arbitraire de ce qu'est l'économie, c'est-à-dire qu'on n'a pris que l'économie qui est liée à l'argent et on a occulté toutes les autres économies. Ainsi, on peut classer les nations par pays riches, pays pauvres, etc., mais c'est totalement arbitraire. Ce qui fait que on a généré des peuples attardés en termes de PIB ou de PND, qui effectivement tourne le dos aux valeurs fondamentales et à l'économie vernaculaire qui était quand même aussi une économie de base fondamentale. Et puis on a inventé l'humanitaire pour corriger en quelque sorte les défaillances. Or, c'est parce que nous n'avons pas su organiser le monde sur l'humanisme, c'est-à-dire un souci profond de l'être humain, que nous avons besoin de l'humanitaire. Et l'humanitaire vient en tant que palliatif des manques d'humanisme. Je n'admets qu'un seul humanitaire, c'est l'humanitaire d'urgence. L'humanitaire de secourir les gens pour les aider à survivre révèle une défaillance justement de cet humanisme. Et c'est pour cela que on est installé dans un système pompier pyromane où la société tout entière rentre dans une espèce de logique, de normalisation d'un système qui est manifestement un système qui doit être revu entièrement et intégralement.
Jis ilake mein hum logon ne kaam kiya, samanya angrezi bhasha mein us ilake ko desert kehte hain.
Tout à fait. Et pour en revenir à l'endroit que je connais le mieux et sur lequel j'ai travaillé avec mon équipe, ce qu'on appelle le désert du Rajasthan ou le désert du Thar, ce mot même, le désert, je ne sais pas si c'est le même en français, mais en hindi, comme en anglais, il est toujours associé à des connotations effrayantes. Derrière désert, on imagine des régions à problèmes, régions rien peut pousser. On imagine le contraire de la fertilité. Or, les gens du pays, de ce fameux désert, soi-disant désert, ils n'appellent pas du tout comme ça. Le nom qu'ils ont pour désigner leur région, c'est le lieu des dunes dorées, de la terre dorée. Est-ce que c'est pas merveilleux de voir que, au lieu d'appeler ça un désert, la société locale a mis de l'or dans la désignation de sa région. Certes, il n'y a pas d'eau, ou s'il y a de l'eau, elle est salée, puisque la nappe souterraine est saumâtre, mais il y en a quand même assez pour assurer l'existence d'un troupeau très nombreux, puisque il est même exporté dans les autres états de l'Inde, et il y a des races de vaches, particulièrement la Rathi, la Tarparka, qui peuvent donner facilement 14-15 litres de lait par jour, et tout ça avec une alimentation industrielle. Elles sont seulement nourries par l'herbe qui pousse localement, l'herbe sévol. Et dans cette région que seuls les planificateurs, les techniciens de la planification ou les géographes peuvent appeler un désert, ben dans cette région, l'eau peut venir à manquer, mais certainement pas le lait, ni le beurre clarifié. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est une région riche, une région pauvre. Je pense que c'est toute notre définition même qu'il faut vérifier. Que nous, on a une définition de la richesse qui correspond à peu près à la conception du banquier. Combien d'argent j'ai? Combien j'ai à la banque? Alors que on peut très bien concevoir une définition basée sur la vie et pas sur la banque. Je peux être riche en billets de banque, en pièces, et pauvre en pensée, pauvre en bonheur, pauvre en capacité à vivre. Et autrement dit, c'est non seulement les définitions, mais les conceptions sur lesquelles elles sont fondées qu'il faut revoir, à mon avis.
Une petite chose, je voudrais ajouter. Comment l'île de l'eau a été manquée?
Je peux donner un autre exemple sur l'utilisation de l'eau. Je ne parle pas de l'eau potable et de l'eau d'irrigation, mais ne serait-ce que pour nourrir le bétail. Et on a toujours, dans ce que les géographes et nos techniciens de la planification appellent le désert, on a toujours eu suffisamment d'eau pour abreuver notre bétail, alors que maintenant, à partir du moment des vaches, des chèvres, moutons, etc., à partir du moment où l'eau est arrivée, l'eau du robinet, par exemple, par des adductions obéissant à des systèmes inspirés par une technologie moderne, mais ce, dès la colonisation, dès ce moment-là, on s'est mis à irriguer et à persuader les paysans de cultiver des cultures lucratif, consommatrice en eau, comme des cacahuètes, du blé. Et à partir de ce moment, il n'y a plus assez d'eau d'une part pour les autres, enfin les occupations traditionnelles, surtout plus de temps et d'attention à ces autres modes de faire, faire donner la terre, et surtout ces cultures ont usé les sols, détourné les gens de faire autre chose et épuise les sols, si bien qu'aujourd'hui on se demande comment réparer cette erreur, et il y a une prise de conscience que c'était pas la chose à faire, mais l'erreur est faite.
C'est un constat qu'on peut là aussi transposer partout, y compris d'ailleurs en Occident, parce que le monde occidental est en train de porter atteinte grave à ce qu'on appelle les biens communs, c'est-à-dire ce qui est indispensable à la survie collective pour demain. Les sols qui sont dégradés énormément, avec l'utilisation massive d'engrais, de pesticides, eh bien, il y a une dégradation évidemment des eaux. Donc, de second bien commun. Troisième bien commun qui est en train de disparaître, c'est la biodiversité. C'est-à-dire tout ce que l'humanité a depuis des siècles, accumulé en quelque sorte et mutualisé aussi, c'est-à-dire qu'il y a une mutualisation des ressources planétaires qui s'est faite à travers l'histoire de l'agriculture, où les plantes ont évolué, se sont partagées, l'humanité a bénéficié malgré les d'ailleurs cette richesse et ce don que se faisait l'humanité évoluait même avec les violences humaines. C'est-à-dire que les violences humaines permettaient aussi, c'était l'occasion de ce don. Et tout cela, la biodiversité est en train de disparaître d'une façon dramatique. Et puis le quatrième élément, disons, c'est le paysan, c'est-à-dire celui qui est chargé en quelque sorte de la gestion de ce bien commun et qui permet à tout être humain de survivre. Et aujourd'hui, on est dans le paradoxe que ce qui est indispensable, en tout cas en Occident, ce qui est indispensable à l'humanité, coûte très peu. C'est à peu près 15 à 17% de dépenses des ménages sont destinées à l'alimentation. Laquelle alimentation est de plus en plus frelatée, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus toxique. Et cette toxicité, alimentation dénaturée génère évidemment des problèmes de santé qui sont de plus en plus graves. Et on a beaucoup de mal à faire que même des scientifiques rapprochent en quelque sorte de la cause et l'effet entre une terre malade et des gens malades. Et on continue à mettre entre les deux un espace vide dans lequel on met tout un fatras médicamenteux d'interventionnisme médical. Mais on ne va pas vers la cause qui est qu'il est impossible qu'une humanité soit en bonne santé si elle a une terre malade, si elle a de l'eau qui est pas de bonne qualité et si elle a une nourriture qui est évidemment frelatée.
Il me semble, Pierre Rabhi, que on pourrait vous opposer, et je l'ai entendu souvent, que l'espérance de vie n'a jamais été aussi merveilleuse, qu'on vit de plus en plus longtemps, qu'on est moins malade qu'avant, en tout cas en Occident.
Quelqu'un comme Illich disait qu'une grande partie de l'évolution de la santé est due au tout à l'égout et au savon. C'est déjà pas mal. Et puis ensuite, même si la nourriture est devenue frelatée, la nourriture a quand même s'est améliorée, même si par la suite elle est devenue frelatée. Et par ailleurs, statistiquement, quand on prend le journal aujourd'hui et qu'on voit des gens mourir à 94, 98 ans, 100 ans et même au-delà de 100 ans, ce sont des gens qui sont nés au début du siècle, au moment où la nature faisait une sélection naturelle drastique, c'est-à-dire que toutes les physiologies un peu faibles disparaissaient. Donc, je ne veux pas nier qu'il y a eu un certain progrès, mais prétendre que ce progrès, que cette longévité est due strictement à notre système, ça j'en doute.
Quant à la question de l'âge, de la longévité que vous posiez, certes, la moyenne d'âge généralement augmente. En tout cas, c'est ce qu'on dit généralement dans tous les pays et en Inde aussi. Mais est-ce que l'état physique de la personne ne se dégrade pas? C'est-à-dire que, en termes de quantité, certes, on peut conclure pour le moment, en tout cas, et dans la plupart des états de l'Inde, à une amélioration, mais dans le domaine de la qualité, il n'en va pas du tout de même. Et je voudrais en particulier parler du problème de la souffrance, parce que c'est une des choses qui me frappe beaucoup. Mettons qu'avant, on puisse vivre jusqu'à à peu près 50 ans. C'était à peu près la moyenne de vie avant ce qu'on appelle le résultat du progrès médical en Inde. Et on mourait. Mettons aussi qu'à 50 ans, on ait un cancer. Eh bien, en quelques mois, on mourait. Aujourd'hui, si on a un cancer à cet âge, on a toutes les chances, grâce au traitement, de pouvoir survivre. Mais dans quelles conditions?
Oui, je suis bien d'accord que l'idéologie veut tout mettre en système, c'est-à-dire elle veut pondérer tout et mesurer tout. Et ça, c'est effectivement, c'est lié à cette histoire de rationalité, c'est-à-dire que la rationalisation de la vie fait que on aborde tous les secteurs de la vie, on les dépoétise quelque part, il y a une espèce de suppression de la poésie. Le temps n'est pas vu de la même façon, il est linéaire, c'est-à-dire que c'est l'Occident qui a quand même amené ce temps linéaire, parce que d'une façon générale dans les traditions, le temps moi-même dans notre propre société, certaines personnes ne savaient même pas l'âge qu'elles avaient, parce que quand les préposés militaires qui sont venus gérer notre population ont voulu établir des cartes d'identité, ils ont convoqué tout le village et les gens ne savaient pas que leur dire. Quel âge as-tu? Ils ne savaient pas. Alors il a fallu prendre des événements connus de tous, l'invasion des sauterelles ou bien l'année où il a fait cette tempête extraordinaire, et on demandait aux gens, est-ce que tu es né un peu avant, un peu après? Donc cette notion du temps fait véritablement la scission entre ce qu'on pourrait appeler l'esprit traditionnel, qui est dans un esprit globalisant, où on vit dans le temps comme dans une espèce de liquide amniotique dans lequel on est en devenir constant, et un temps qui est linéaire, maîtrisé, qui fait que il a introduit même l'angoisse, parce que on nous met le début de notre existence à la naissance et la fin de notre existence à la mort. Et puis on a en plus une civilisation qui prétend libérer l'être humain, jamais une civilisation l'a autant enfermé. Je dis souvent dans mes conférences, regardez l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, c'est quoi? De la maternelle à l'université, il est enfermé. Ensuite, on va dans les casernes. Ensuite, quand on demande aux gens où est-ce que vous travaillez, tout le monde travaille dans des boîtes. Vous voyez? Et quand on demande aux jeunes où est-ce que vous êtes allé vous amuser, je suis allé m'amuser en boîte. Et tu y es allé comment? Je suis allé dans ma caisse. Et puis ensuite, bah, vous avez la boîte dans laquelle on stocke les vieux, en attendant la dernière boîte ou la dernière urne qui va finalement représenter finalement l'itinéraire d'un être humain. Moi, ça, j'appelle ça l'aliénation fondamentale de l'être humain sous le prétexte au contraire de le secourir et d'améliorer son sort. Donc il suffit simplement de voir l'itinéraire d'un être humain dans la modernité pour se rendre compte que c'est une imposture, qu'elle nous a confisqué notre durée, notre temps de vie, qu'elle en a fait une espèce d'énergie productive à vie, jusqu'à la fin de la vie, et que je me demande si on n'est pas dans une espèce de je sais pas quoi, d'esclavage volontaire, je sais pas, j'exagère peut-être, mais il y a quelque chose de profondément aliénant. Et il est temps que l'on comprenne que nous ne sommes pas dans un système humain, nous sommes dans un système qui est totalement géré par des critères qui n'ont rien d'humain.
Je te l'attends que ये जो संख्या वाला खेल है इससे बहुत सावधानी से बचने की आदत डालनी पड़ेगी।
Le jeu du recensement et toute cette catégorisation des populations, je crois qu'il faut s'en protéger, s'en préserver avec le plus grand soin. Par exemple, chez nous, c'est une chose relativement nouvelle. Il y a 200 ans, 300 ans, il n'y avait pas de rapport. On mettait pas ça en chiffres, en boîte, on ne listait pas les populations. Tout ça, c'est arrivé avec la colonisation anglaise. Et quand l'officier de recensement, le collector, comme on dit, arrivait dans les villages, il commençait à inscrire tout dans son journal de bord et les gens ouvraient des yeux absolument écarquillés. On leur demandait, ici, il y a combien de gens qui sont nés? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous cultivez? Quelles sont vos récoltes? Et puis les gens disaient, mais il n'y a personne qui meurt de faim ici. Et on leur demandait quels sont les emplois, les professions, qui est sans emploi? Et ils ne connaissaient pas le sens de ces mots. Et tout ça traduisait une mentalité, je veux dire, de la part des officiers du recensement, une mentalité de catégorisation. On décide donc de les développer pour leur donner la prospérité que, officiellement, ils n'ont pas, parce que les cases correspondant à la prospérité, nombre d'agriculteurs à la terre, par exemple, prorata des récoltes par rapport au nombre d'actifs, ces catégories sont déficientes, donc on les développe, comme on s'y prend, on installe des banques dans les villages et toute la structure qui correspond à notre conception moderne du développement et du progrès. Et voilà, maintenant, on peut dire que tel et tel village est développé, a progressé. Et c'est de tout ça qu'il faut essayer de se protéger, et c'est devenu extrêmement difficile parce que la mentalité de mise en catégorie distincte d'enregistrement qu'on doit finalement à ce processus mis en place depuis la colonisation, cette mentalité-là s'est tellement installée dans les mœurs qu'il est très difficile de la combattre. Et elle me fait penser, en fait c'est une mentalité qui correspond à tout rationaliser, déjà tout enregistrer, décrire, catégoriser, et probablement dans un dessein de systématiser qui satisfait en nous un besoin de sécurité et une peur de l'irrationnel, du hasard. Et il me revient en tête une histoire du Mahabharata que j'aimerais bien vous raconter. Il y avait une fois un village qui était très prospère et où les gens vivaient dans le bonheur, mais ce village a été attaqué par un démon, un énorme démon qui demandait tribut et en termes de victimes humaines, et ses proies étaient prélevées au hasard. Ils s'amenaient dans une maison et ils prenaient un enfant, un adolescent, une petite fille, et c'était un peu la panique parce que les gens se demandaient tous les jours à qui le tour, comment savoir, et donc tout le monde vivait dans la terreur. Donc ils se sont concertés et ils ont décidé que pour mettre fin à cette espèce d'anarchie, à cette saisie irrationnelle du démon, ils allaient établir des tours de rôle et ils allaient indiquer au démon que aujourd'hui c'est telle maison qui va payer tribut, demain telle autre. Donc en fait, là, ce n'est pas une satisfaction, mais l'apaisement qui venait du fait qu'on n'était plus dans l'ignorance, on n'était plus dans l'incertitude, on n'était donc plus dans la panique, a produit chez les gens une mentalité très analogue à celle qu'on a aujourd'hui dans l'acceptation de l'inacceptable, parce que finalement ce démon qui vient terroriser le village, c'est inacceptable. On ne peut pas le mettre à mort parce que c'est un démon énorme, il est plus grand que la tour Eiffel, mais l'idée de se fédérer pour accepter ses conditions et de mettre un signe sur sa porte pour lui indiquer tous les soirs quel enfant il peut venir prendre, c'est tout à fait analogue à notre manière d'accepter des choses qui se sont installées dans notre vie. Donc on voit pas de raison et on voit surtout pas de moyens de les combattre, mais en réalité nous fonctionnons comme ces villageois qui ont accepté en fait le sacrifice des leurs, et c'est ça la production du consentement.
Ben, partant de tous ces constats, est-ce qu'on pourrait pas voir un petit peu, on a fait un peu l'état des lieux, mais est-ce qu'on pourrait aborder un petit peu quelles alternatives on nous proposons, j'aimerais bien savoir comment il perçoit, disons, les choses, ayant, en partant de ce constat, quelle est sa vision du futur et quels sont les moyens que l'on peut mettre en place pour infléchir ce futur et le rendre positif.
दिक्कत यह है कि इस पद्धति ने पिछले 200 साल में.
En fait, le problème, c'est qu'on a affaire à une espèce de conquête des mentalités, de prise des esprits. Notre société prémoderne, elle se considérait comme ayant, par sa propre, ayant construit ses pratiques, ses mentalités, son mode de vivre, uniquement à partir de ses ressources intellectuelles à elle. C'est-à-dire, d'un certain côté, c'était la société des gens libres d'esprit. J'ose pas dire des libres penseurs, mais qui, par leur liberté de penser, ont réussi à s'approprier leur environnement et à construire leur propre culture. Alors que aujourd'hui, cette liberté de penser, on la chercherait en vain, vu que la pensée est prise d'assaut en quelque sorte et détournée, conquise par le rouleau compresseur du type d'éducation, du type de savoir. On nous apprend à tous penser de la même manière. C'est ça que j'appelle le détournement des pensées, le détournement des idées. Et ce système, cette conquête des esprits par un système d'éducation à la fois standardisé et tout de même très particulier, cette conquête des esprits, elle aboutit à une sorte de standardisation de la pensée et de dépossession aussi de sa propre pensée. En réalité, aujourd'hui, on ne sait plus penser par nous-mêmes. Tout est standardisé, tout doit répondre à un modèle unique, y compris la révolution. La pensée de la révolution, aujourd'hui, c'est devenu un standard, mais il faut que le monde entier obéisse à la même conception de la révolution. Ça doit être une seule et même révolution pour le monde entier. Un seul modèle, ce qu'on peut appeler donc la pensée unique, la révolution unique. Et le développement aussi unique sur le mode de sa pensée unique, d'une conception standardisée. Et en fait, on se rend compte déjà que c'est l'échec. Au bout de 10-20 ans, on s'est avisé que dans le domaine de la protection de la nature, le développement sur le modèle unique et ce mode de pensée unique ne remportait pas que des succès. Donc je crois que notre premier défi, la première chose vers laquelle il faut viser, c'est renouer avec notre propre intelligence.
Je pensais que l'un et l'autre, vous parliez, sans en parler, de renoncement. Il y a à renoncer à toutes sortes de luxes qui sont un petit peu inutiles. C'est déjà en soi un effort. Mais vous parlez aussi de renoncements qui sont beaucoup plus difficiles parce que ce sont des renoncements à des choses auxquelles on croit très profondément. Et quand je dis on, c'est socialement, on y croit. L'éducation, la médecine.
Le renoncement, ça pourrait peut-être avoir une connotation un petit peu négative dans le sens... Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de l'outrance. l'outrance qui se traduit par cette croissance économique indéfinie sur une planète qui est elle-même limitée. Et qui, en fait, génère évidemment ce dont on a parlé, des disparités considérables, le nord, le sud, des pauvres, des hyper-riches, et finalement qui ne génère pas de bonheur partagé. Il y a pas, je crois qu'il faut s'interroger sur ce que signifie la vie. Est-ce que la vie, c'est venir sur Terre pour en baver avant de disparaître, ou est-ce que venir sur Terre, c'est pour se réjouir d'être en vie et donc de partager la beauté de la vie et donc de s'accomplir à travers cette vie. Or, nous sommes dans un système qui nous a installés dans le manque permanent. C'est-à-dire qu'au lieu de nous dire vous avez, on dit vous n'avez pas. Et à force de nous dire vous n'avez pas, on finit par croire que nous n'avons pas. Et ça, le système marchand s'empare de cette frustration. Il programme en quelque sorte cette frustration, insiste sur le manque, et c'est ce qui génère cette publicité du toujours plus indéfini, où il faut toujours consommer de plus en plus. Et on n'en est même pas très 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 heureux. Donc je parlerai pas de renoncement, mais je parlerai peut-être de retour à l'équilibre. Il y a une anecdote qui illustre très bien ce que je voudrais dire. Dans notre pays, dans mon pays, est arrivée la modernité sous la forme du charbon. On a découvert du charbon, donc il fallait exploiter le charbon. Alors, l'exploitation du charbon a bouleversé notre structure sociale, et la compagnie qui exploite le charbon a mobilisé la main-d'œuvre locale, évidemment. Ils ont embauché les gens localement, fait venir des cadres de France. Et puis, ils se sont trouvés confrontés à un phénomène bizarre qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que quand certaines personnes percevaient leur salaire de mineurs, on ne les revoyait plus. Ils revenaient un mois, deux mois après. Et quand ils revenaient, on leur disait « Mais pourquoi tu n'es pas venu travailler ?» Et ils répondaient « C'est parce que je n'avais pas fini de dépenser mes sous. Voilà. » Donc, c'est là la grande différence entre... disons, la satisfaction des besoins et garder du temps pour être profondément, c'est-à-dire à consacrer à son épanouissement propre, ou un système qui vous prend intégralement dans une productivité indéfinie, qui génère elle-même des déchets illimités et qui génère toutes les nuisances. Donc je dirais que j'appellerais pas ça renoncement, j'appellerais ça retour à l'évidence, et retour à l'équilibre, de façon à ce que la vie ne soit pas simplement une vie de produire et consommer pour produire indéfiniment, mais que ça puisse être le lieu quand même d'une évolution réelle de l'être humain. L'éducation, évidemment, est un des éléments absolument fondamentaux. Je ne crois pas qu'aujourd'hui l'éducation réponde aux nécessités, ni d'aujourd'hui ni de demain. Je ne crois pas qu'elle prépare l'enfant aux défis et aux mutations considérables auxquelles il aura affaire. Et je ne crois pas qu'une éducation qui là aussi éduque hors sol entre des murs et confisque à l'enfant la vie, c'est-à-dire la nature qui est quand même le fondement de la vie, puisse correspondre véritablement à une éducation réaliste. Par ailleurs, on a parlé beaucoup de mental, etc., de mentalisation. D'ailleurs, c'est vrai que cette mentalisation, elle est telle que on préfère faire étudier un enfant un arbre sur un livre plutôt que d'aller lui montrer. Quelquefois, l'arbre est dans la cour, mais on est dans les livres. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mentalisation, effectivement, qui bloque l'imaginaire. Et ce blocage de l'imaginaire et cette déconnexion avec la nature, plus ce qui a été aussi dramatique, le mépris des mains, le mépris de la main au profit du cérébral, fait qu'aujourd'hui, on est dans une impasse de jeunes qui n'ont pas déployés, qui n'ont pas développé toutes leurs capacités. Et éduquer, c'est vraiment aider l'enfant d'abord à être serein, parce que si c'est pour être dans l'angoisse de la compétition, comment y arriver, et qu'on lui montre la vie comme quoi c'est plus un lieu où on échoue, beaucoup plus qu'un lieu de félicité, enfin un lieu de bonheur, déjà on démarre très mal, on l'ensemence d'angoisse. Et tout cela, à mon avis, n'est pas du tout intelligent et n'est pas conforme à la réalité.
Mais oui, c'est ça. Maintenant, moi, je pense que
On considère qu'aujourd'hui, l'éducation s'est répandue partout, en tout cas sur toute la surface de notre pays, qui a eu de gros progrès. De ce côté-là, cette éducation que, par bien des côtés, on peut considérer aussi comme un nouvel esclavage de la pensée. La question que je me pose, c'est est-ce que la société d'aujourd'hui, entièrement pénétrée par ce système d'éducation, est instruite, et est-ce que est instruite et ne l'est donc que depuis à peu près 200 ou 300 ans, puisque c'est un processus qui s'est mis en place à cette époque, la généralisation de ce système d'instruction, d'éducation, ou bien est-ce que la société d'avant était elle aussi instruite, mais d'une autre façon? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les conceptions de l'instruction que reflètent l'une et l'autre société, disons notre société prémoderne et notre société moderne et contemporaine, reflètent des conceptions de l'instruction complètement différentes, ce qui ne signifie pas forcément que la conception prémoderne caractérisait une société sans instruction. Certes, les gens étaient illettrés, mais il procédait d'une manière que j'aimerais bien comparer avec l'université ouverte. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle en anglais « open university ». Eh bien, la société traditionnelle, prémoderne, elle fonctionnait un petit peu comme ces universités ouvertes. Alors que la société contemporaine et notre système moderne d'instruction, qui est réputé le seul fournisseur de l'instruction, il procède par boîte, les cycles de 5 ans dans le primaire, ensuite une douzaine d'années dans le secondaire, et puis après l'université pour encore 5 ans. Alors que anciennement, l'enseignement, il coïncidait avec la vie. Il n'y avait pas quelque chose comme les élèves, les professeurs, maîtres et disciples, avec des blocs d'enseignement préétablis, des programmes, mais c'est tous les jours que on apprenait bien sûr des anciens qui jouaient le rôle de maître et puis des détenteurs de savoir. Alors quel savoir justement? On apprenait par exemple au Rajasthan, l'endroit où j'ai beaucoup travaillé et où l'eau est rare, ce qu'on apprenait, eh bien c'était à trouver l'eau, ensuite à la collecter, ensuite à la conserver. Et si ce n'est pas ça l'instruction, je me demande bien quel sens on peut donner à instruction. Oui, avant la modernisation de l'Inde, comme de toute société traditionnelle, je crois que les gens étaient instruits, étaient même cultivés. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas lettrés au sens alphabétisé. Nous, on a tendance à confondre l'alphabétisation et l'instruction. Or, l'alphabétisation est un des modes de l'instruction. C'est pas le seul véhicule des savoirs. Je vous ai déjà donné plusieurs exemples de savoirs qui ne sont pas que des savoirs techniques, puisqu'ils sont aussi associés à des conceptions mentales, à une connaissance à la fois technique et puis philosophique, des rapports entre l'homme, son environnement, sa tradition, son histoire, autrement dit. Mais le problème, c'est que ces savoirs-là, s'ils passent pas par les lettres, par l'alphabet, ils ne sont pas considérés comme des savoirs. La question qu'on nous a posée sur la santé, est-ce que vous comptez vous dispenser de tout l'apport de la médecine moderne? C'est probablement une question pour nous faire bondir, pour nous faire réagir un petit peu. J'ai envie de répondre en posant moi aussi une question qui fasse un petit peu bondir ceux qui m'écoutent. Je voudrais vous demander pourquoi une société estimée comme très développée et riche et prospère comme l'Europe par exemple, l'Occident en général, pourquoi on s'intéresse dans ces pays-là aujourd'hui de plus en plus aux plantes médicinales? Pourquoi on propose de plus en plus de traitements par les plantes? En fait, cette même société occidentale, ça fait plus de 50 ans qu'elle a renoncé ou oublié ses médicaments traditionnels, Mais les médecines traditionnelles ayurvédiques ou développées dans d'autres pays, ce sont des médecines qui ont 1000 ans d'âge. Donc j'ai du mal à comprendre comment une société qui a tourné le dos à ses propres remèdes traditionnels, ses remèdes de bonne femme, pourquoi diable elle s'enthousiasme brutalement pour les traitements de la médecine par les plantes aujourd'hui.
Vous savez que vous pouvez réécouter cet entretien pendant une semaine sur notre site internet franceculture.com. Vous pouvez également, si vous souhaitez une bibliographie, nous téléphoner au 01 56 40 36 72 à partir de lundi ou nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, traduction, Annie Montaud, mixage, Georges Sautour, réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.